Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Il est un peu plus de 11h sur Radion. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir noté ce nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous vous accompagnons jusqu'à midi pour une émission qui aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du 22e Printemps des Poètes qui a débuté le 7 mars dernier et qui va se prolonger jusqu'au 23 mars. Cette manifestation a cette année retenu le thème du courage et elle est marrainée par la comédienne Sandrine Bonner. Une manifestation soutenue par le ministère de la Culture, le Centre National du Livre et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Alors au programme aujourd'hui, des poèmes lus par différents intervenants que je vous présenterai tout au long de cette émission. Nous réentendrons le chanteur Hugo Frey qui en novembre 2018 était venu à Auxerre pour un hommage national rendu à la poétesse auxerroise Marie-Noël. Je l'avais alors rencontré et interviewé. Il nous confiera toute l'admiration qu'il a pour la poétesse auxerroise Marie-Noël disparue en 1967. Nous aurons aussi l'occasion de réentendre Serge Moreau qui en mars 2012 à notre micro évoquait quelques poètes qu'il avait alors recensés dans un ouvrage qui avait paru aux éditions de l'Armançon et qui avait pour titre « Petit dictionnaire atypique des poètes de langue française ». Nous allons ouvrir cette émission avec la lecture d'un poème par un de mes amis. Il a 35 ans, il est roumain et je lui ai demandé, et c'est un bel effort qu'il a fait, je le remercie, je lui ai demandé de lire un poème de la poétesse québécoise Claudine Bertrand. Le poème est très court, l'accent magnifique et absolument savoureux. Un poème de Claudine Bertrand, lu par Stéphane.
Un cœur fuit sous la verrière du rosé et clématite, la racine du feu voyageuse se rappelle un grand mystère. D'innombrables bouquets suspendus aux poutres ou à des clous attend un regard.
À l'instant, un poème de la québécoise Claudine Bertrand, lu par Stéphane, que je remercie d'ailleurs, Stéphane qui est roumain et qui a accepté pour ce numéro de Wagon Livre de partager avec vous ce très court poème. Claudine Bertrand, vous avez pu l'entendre la semaine dernière, je l'avais rencontrée alors qu'elle était en résidence d'écriture à la maison Jules Roy à Vézelay en août 2017. Elle est la fondatrice de la revue Arcade qu'elle a dirigée pendant 25 ans. Elle est une figure marquante de la poésie québécoise, une poésie qui a sa propre voix unique et inspirante, puisant à même les thèmes universels que sont l'amour, l'amitié, la mort. Claudine Bertrand a enseigné durant plusieurs années, tout en donnant des conférences en France et en Afrique. Elle a reçu de nombreux prix et de nombreuses nominations, aussi bien au Québec qu'à l'étranger. On mentionnera qu'elle a reçu le prix Tristan Tzara et le prix du Salon international des poètes francophones. Et à ce jour, Claudine Bertrand continue de sensibiliser divers publics à la poésie et à la littérature. Sans doute le savez-vous, en cette année 2020, nous commémorons le 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian. Alors à cette occasion, mon ami Aldo Magno, metteur en scène et comédien, et moi-même avons décidé, alors soyez indulgents s'il vous plaît, d'interpréter a cappella un des textes les plus célèbres de Bison Ravi, Boris Vian, le déserteur, que Mouloudji a chanté dès 1954, c'est-à-dire à la fin de la guerre d'Indochine et au moment où la France allait connaître ce qu'elle appelait pudiquement les événements d'Algérie. Tout de suite donc, le déserteur, interprété par Aldo Magno et moi-même. Excellente matinée dans Wagon Livre sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Le déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre.
que vous lirez peut-être
si vous avez le temps.
Je viens de recevoir
mes papiers militaires
pour partir à la guerre
avant mercredi soir.
Monsieur le Président,
je ne veux pas la faire.
Je ne suis pas sur terre
pour tuer des pauvres gens.
C'est pas pour vous fâcher.
Il faut que je vous dise,
ma décision est prise.
Je m'en vais déserter.
Depuis que je suis né,
j'ai vu mourir mon père.
J'ai vu partir mes frères
et pleurer mes enfants.
Ma mère a tant souffert.
Elle est dedans sa tombe
et se moque des bombes
et se moque des vers.
Quand j'étais prisonnier,
on m'a volé ma femme,
on m'a volé mon âme
et tout mon cher passé.
Demain de bon matin,
je fermerai ma porte
au nez des années mortes.
J'irai sur les chemins,
je mendierai ma vie
sur les routes de France,
de Bretagne en Provence.
Et je dirai aux gens,
refusez d'obéir,
refusez de la faire,
n'allez pas à la guerre,
refusez de partir.
S'il faut donner son sang,
allez donner le vôtre.
Vous êtes bon apôtre,
monsieur le président.
Si vous me poursuivez,
prévenez vos gendarmes
que je n'aurai pas d'armes
et qu'ils pourront tirer.
Pam 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 pam. Boris Vian.
Aldo Magno et moi-même pour chanter a cappella Le Déserteur, ce célèbre texte de Bison Ravi, alias Boris Vian, qui aurait eu 100 ans en cette année 2020. Wagon Livre sur Radion, aujourd'hui spécial 22e printemps des poètes. Je vous propose un texte de Jean Pellerin intitulé « La grosse dame chante ». Manger le pianiste ? Entrer dans le playel ? Que va faire la dame énorme ? L'on murmure. Elle racle sa gorge et bombe son armure. La dame va chanter, un œil fixant le ciel. L'autre suit le papier, ce cours artificiel. Elle chante. Mais quoi ? Le printemps ? La ramure ? Ces rancœurs d'incomprise et de femmes trop mûres ? Qu'importe ? C'est très beau, très long, substantiel. La note de la fin monte, s'assied, s'impose. Le buffet se prépare aux assauts de la pause. Après, le concerto ? Mais oui, deux clavecins. Des applaudissements à la dame bien sage, et l'on n'entendra pas le bruit que font les seins clapotant dans la vasque immense du corsage. Poème de Jean Pellerin. Autre texte, cette fois-ci, sous la plume de Pierre-Albert Biraud, un poème intitulé « Au jeune poète, poème genre didactique ». Pour faire un poème, pardonnez-moi ce pléonasme, il suffit de se promener quelquefois sans bouger. Regardez dehors et dedans avec toutes les cellules de votre vous. Et voici que vous êtes riche. Mais n'en dites rien à personne pour aujourd'hui. Ne faites pas le nouveau riche. Apprenez les bonnes manières, car la fortune est peu de choses à qui ne sait pas s'en servir. Vous voici fécondé. Travaillez, façonnez, polissez, assemblez tous ces immatériels matériaux. Maintenant que vous avez reçu le monde en vous, portez le monde qui va naître. Obéissez, parfois aux lois des autres, parfois aux vôtres, parfois encore et surtout à la loi, qui n'est ni des autres, ni de vous. Et vous serez aimés des mots, des sons, des rythmes qui s'ordonneront pour vous plaire. Soyez triple comme un dieu, ou plutôt comme une mère, et naîtra le poème. Mais j'aurais dû tout simplement vous dire, copiez, copiez, religieusement la vérité que vous êtes et vous ferez un poème, à condition que vous soyez poète. Autre poème cette fois-ci, intitulé « Le ventre de ma mère » par Blaise Sandrars. Le ventre de ma mère. C'est mon premier domicile. Il était tout arrondi. Bien souvent, je m'imagine ce que je pouvais bien être. Les pieds sur ton cœur, maman, les genoux tout contre ton foie, les mains crispées au canal qui aboutissait à ton ventre. Le dos tordu en spirale, les oreilles pleines, les yeux vides, tout recroquevillé, tendu, la tête presque hors de ton corps. Mon crâne à ton orifice, je jouis de ta santé, de la chaleur de ton sang, des étreintes de papa. Bien souvent, un feu hybride électrisait mes ténèbres, un choc au crâne me détendait et je ruais sur ton cœur. Le grand muscle de ton vagin se resserrait alors durement. Je me laissais douloureusement faire et tu m'inondais de ton sang. Mon front est encore bosselé de ces bourrades de mon père. Pourquoi faut-il se laisser faire ainsi, à moitié étranglé? Si j'avais pu ouvrir la bouche, je t'aurais mordu. Si j'avais pu déjà parler, j'aurais dit « Merde, je ne veux pas vivre ». Le ventre de ma mère, poème de Blaise Sandrars. Et puis, avant de vous offrir une pause musicale, un poème de Pierre Macorlan intitulé « Le manège d'aéroplane ». À la fête de Montmartre, au milieu de l'année 1906, Guillaume Apollinaire, Salmon, Jacques Vaillant, Julien Calais et moi, nous montâmes sur ce manège de monoplan dans le but de participer au progrès, tout en restant attachés au sol par des traditions littéraires et par le pignon de ce manège. Comme nous étions riches et naturellement bienveillants, nous jetâmes sur la foule qui criait « Noël !» des cigares allumés, des épluchures de bananes, des oranges sucées et des billes de billard. Une musique angélique nous entraînait dans son vertige et les monoplans tournaient comme les volants d'un jupon de danseuse. Il fallut enfin descendre. Et c'est depuis ce jour que j'ai fait l'acquisition d'un râtelier, de deux béquilles en bois et d'une perruque discrète. À cette époque, nous savions accumuler les souvenirs. Poème de Pierre Macorlan, extrait du recueil Poésie documentaire complète. Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Première césure musicale avec Lola Lelanne, Le Soleil. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous et merci de nous accompagner sur Radio ce matin.
Soleil, soleil, soleil.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de notre Wagon Livre consacré aujourd'hui au 22e printemps des poètes, deuxième émission qui succède à celle que nous vous avons proposée samedi dernier. 22e printemps des poètes qui a retenu cette année le thème du courage. Et comme je l'annonçais dans l'introduction à notre rendez-vous hebdomadaire, nous allons maintenant écouter Hugo Frey. Je ne vais pas spécialement revenir sur la carrière de chanteur d'Hugo Frey. Je pense que toutes et tous, vous le connaissez. En tout cas, Hugo Frey a un peu plus de 90 ans aujourd'hui. Je l'avais rencontré à Auxerre le 18 novembre 2017, alors qu'il était venu sur la scène du théâtre d'Auxerre pour participer à l'hommage national qui était alors rendu à la poétesse auxerroise à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Bien sûr, lorsqu'on parle de Hugo Frey, on pense à certains titres de ses chansons qui sont vraiment très connues et qui font désormais partie du patrimoine français. Je pense à Céline, Stubal, Adieu Monsieur le Professeur, Le Rossignol Anglais, Les Crayons de Couleur, L'Épervier ou Dès que le Printemps Revient, ou bien sûr l'incontournable Santillano. Je vous propose donc d'entendre l'interview que j'avais réalisée avec le chanteur Hugo Frey dans sa loge au théâtre d'Auxerre. C'était en novembre 2017 et je lui avais demandé, lui qui est un admirateur de Marie-Noël, comment il avait connu la poétesse auxerroise. Hugo Frey.
Une rencontre tout à fait par hasard. Je ne peux pas dire comment j'ai découvert Marie-Noël. Probablement en écoutant très tard le soir France Culture, il y a environ une trentaine d'années, trois décennies à peu près. Et j'ai été émerveillé, c'était un coup de foudre, le texte que j'ai entendu, c'était extraordinaire. Je me suis renseigné et puis ça m'a conduit jusqu'ici, où j'ai rencontré évidemment la personne qui avait en charge de maintenir l'œuvre de Marie-Noël, puisqu'elle était disparue. C'était après 67, moi, que j'ai fait cette découverte. Ça a été un coup de foudre. D'autant plus que je disais volontiers à ceux qui m'interviewaient que je détestais la poésie. Pour une raison très simple, c'est que la poésie, quand j'étais enfant, moi j'ai fait des études, 8 ans d'études, j'ai fait passer le bac, j'ai fait une année de philo, et j'ai jamais entendu parler de Marie-Noël. Jamais. J'ai été pourtant 4 ans chez des moines dominicains, un collège. Ensuite, je suis parti en Espagne où j'ai fait 3 années au lycée français de Madrid avec un excellent professeur de lettres. J'ai jamais entendu parler de Marie-Noël. En revanche, j'ai entendu parler, surtout après la guerre, quand j'ai fait ma philo, des poètes qui étaient à la mode à l'époque, Paul Éluard, René Char, Aragon, etc. Et ça m'intéressait plus du tout. La poésie que j'avais aimée quand j'étais enfant, c'est-à-dire que j'avais découvert avec mes frères un peu tout seul parce qu'on ne nous l'enseignait pas à l'école, on avait découvert Rimbaud. Et Rimbaud, ça commence par on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et ça finit par quand même ce qu'il a. Et ça finit quand même par. Son dernier comment ça s'appelle, l'enfer, attendez, il faudra couper ça.
Une saison en enfer.
Une saison en enfer, et ça se termine par une saison en enfer. Il est visible que le grand message de ce génie absolu qui incarne à lui tout seul toute la poésie française depuis le Moyen-Âge, il était capable de tout faire. Il possédait parfaitement l'art d'écrire avec les rimes, avec le rythme nécessaire. Et puis tout d'un coup, il a ce langage complètement hermétique, un peu comme le chant des Mal d'Aurore de Lautréamont. Entre Rimbaud et Lautréamont, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui était fini.
Mais Lautréamont, c'est une poésie de la dissonance, une poésie de la révolte. Chez Rimbaud, elle se perçoit aussi. Chez Rimbaud, il y a quand même cette voyance rimbaldienne.
Il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on a un parcours qui nous mène à quelque chose qui se termine. Et effectivement, moi qui étais en Espagne, j'arrive en Espagne alors que j'avais l'impression qu'en France il n'y avait plus rien. Il y avait plus personne ne chantait dans les campagnes. Il n'y avait plus de folklore. il n'y avait plus de danse. J'arrivais en Espagne, c'était sous Franco, et c'est en 46, toute l'Espagne chantait et dansait. Alors que 10 ans avant, c'était la Révolution. Des chants extraordinaires. J'ai vu là que la poésie de Garcia Lorca n'était pas supérieure aux rimes, aux petits couplets populaires qui étaient chantés dans les villages depuis des siècles. Alors je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose en France, que la poésie avait disparu parce qu'elle n'était pas chantée.
En cela, c'est vrai que c'était la perte un peu de l'identité de la poésie. Au Moyen-Âge, les troubadours, où il y avait toujours un accompagnement musical.
L'Antiquité, ils chantaient également. Depuis l'Antiquité, les poètes ont toujours chanté. Alors le fait de ne plus chanter, ça a été la rupture avec le contact avec le peuple. Car le peuple, il n'a pas fait d'études. Pour la plupart, ils n'ont pas des licences de lettres, ils sont pas des agrégés de grec ou de latin, ou bien, vous voyez ce que je veux dire. Et tout d'un coup, la poésie est devenue un art qui était réservé à une élite. Aucun ouvrier de chez Renault ne pouvait lire Mallarmé, ni Baudelaire même. Et alors, quand après la guerre, parce qu'ils avaient été résistants, Éluard et René Char sont devenus à la mode, ben, je vais vous dire, il n'y a plus de rime, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien de poésie.
Il y a tout de même une originalité.
Mais non.
Mais vous leur reprochez leur engagement communiste, mais...
Mais pas du tout, c'est pas ça que je reproche. Je reproche de dire qu'ils parlent pour le peuple et ils ne parlent pas au peuple. Il parle en son nom, mais c'est facile de parler au nom des gens. Moi, ce que je veux, c'est parler aux gens. Et Marie-Noël, le jour où je la découvre, j'ai vu qu'elle parlait aux gens. Sa femme de ménage pouvait lire ses poèmes et pleurer.
Alors, la poésie de Marie-Noël, vous avez parlé de la chanson, Marie-Noël, notamment dans Petit Jour,
voilà.
Raconte dans son enfance, elle a entendu les grandes personnes chanter sans arrêt autour d'elle des refrains.
Mais
ils chantaient aux marches du palais,
il y a une tant belle fille. Voilà ce qu'ils entendaient chanter. Et la vraie poésie populaire. Qui fait pleurer les soirées devant la cheminée, les mamans qui chantaient ça à leurs enfants ou les grands-mères. Et c'est, pour moi, il y avait quelque chose de fondamental qui avait totalement disparu en France. Et je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas parler de Marie-Noël? Et bien malheureusement, c'est pour des raisons politiques. C'est pour ça que je vous dis, je ne reproche pas à René Char d'être communiste. Je pense que son succès a occulté celui de Marie-Noël. J'aurais préféré que, en tous les cas, ces gens-là se battent pour avoir Marie-Noël, qui n'était pas marxiste, qui n'était pas communiste, mais qui était une vraie poète, une humaniste.
Le chanteur Hugo Frey, à l'instant à notre micro, une interview enregistrée au Théâtre d'Auxerre le 18 novembre 2017, alors que Hugo Frey était venu effectivement sur la scène du Théâtre d'Auxerre pour participer à un hommage national rendu à Marie-Noël à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Marie-Noël, qui est née à Auxerre en 1883 et qui y est morte effectivement le 23 décembre 1967. La chanteuse d'Auxerre que l'on peut relire notamment dans la collection NRF Poésie Gallimard. Je mentionne notamment ce recueil intitulé « Les chansons et les heures » avec une préface d'Henri Gouillet. Et puis il est intéressant aussi de relire la prose de Marie-Noël. Je mentionnerai notamment « Petit jour »,« Souvenirs d'enfance » et « Souvenirs du beau mai » qui permet en fait de découvrir la vie de Marie-Noël et le regard qu'elle porte sur sa jolie ville d'Auxerre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour un wagon-livre spécial 22e printemps des poètes. Tout de suite, Barbara d'Alcantara, Je t'ai pas sous la main. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de ce wagon-livre.
Je t'ai pas sous la main, je t'ai pas sous la bouche. Mais au téléphone, tu me dis des mots fous qui me rendent folle, des mots qui font mouche. Je me sens perdue, loin de toi, de nous. Pourquoi faut-il donc toujours qu'on se quitte pour aller ailleurs voir s'il fait plus beau. Je suis aux Antilles, à Pointe-à-Pitre, c'est vrai qu'il y fait plus chaud que chez nous. Chez nous, dis-tu, il pleut à Diké, à Dac. Ici, c'est en moi qu'il pleut à boire debout. Parfois, la pluie fait des cataractes. J'ai les yeux dans l'eau si je pense à nous. Pourquoi faut-il donc que l'amour laboure le cœur des femmes et le rende si lourd? Au bord de la mer, j'ai la vague. J'ai le mal de toi, j'ai le mal de nous.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Barbara d'Alcantara, à l'instant dans votre Wagon Livre spécial 22e printemps des poètes, juste avant la césure musicale que nous vous avons offerte, nous évoquions la poétesse Marie-Noël, née en 1883 à Auxerre, disparue également à Auxerre en 1967. Toute sa vie s'est effectivement passée à Auxerre et sa poésie, dont les formes simples retrouvent l'accent de la chanson populaire, dit ses effusions et ses inquiétudes religieuses, les aventures de son existence quotidienne. Marie-Noël a d'ailleurs suscité l'admiration de Monterland comme celle d'Aragon. Marie-Noël, dont l'œuvre a reçu le Grand Prix de l'Académie française. Et effectivement, juste avant de vous offrir Barbara d'Alcantara, nous vous avons proposé une interview du chanteur Hugo Frey que j'avais rencontré en novembre 2017 alors qu'il participait à l'hommage national à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de la poétesse Marie-Noël. Et je lui avais demandé, lui qui admire la fauvette d'Auxerre, je lui avais alors demandé comment il abordait la poésie pétrie de catholicisme et de mysticisme de Marie-Noël. Hugo Frey.
Vous m'entraînez sur un terrain qui est trop complexe parce que moi je l'ai entendu dire qu'elle était agnostique, elle-même. Je ne peux pas vous affirmer que ce n'est pas dans l'interview qu'on voit en ce moment si vous regardez sur votre...
Oui, via un moteur de recherche, l'interview, vous pensez à l'entretien qu'elle donne à son biographe, Raymond Escoffier, en 59, c'est
bien
à Lina.
Sûr. Mais on ne peut pas dire non plus que Brassens était anarchiste et athée. Il n'était pas anarchiste, il athée. Celui qui écrit la chanson pour l'Auvergnat, vous pensez qu'il peut être... Vous savez ce qu'il a dit, Brassens, le soir où sa maman est décédée? Sa maman n'aimait pas les chansons qu'il écrivait parce qu'elle était trouvait qu'il était trop grossier. Donc, en tant qu'italienne catholique et pratiquante, elle n'est jamais venue voir son fils sur scène. Mais le soir où elle est décédée, le fils était sur scène, Brassens était sur scène, il s'est retourné vers le bassiste pour boire un verre d'eau, puis il lui dit, tu sais, Nicolas, ce soir, maman est dans la salle. Alors, si vous appelez ça un mec qui est athée, ça, moi, je marche pas.
Alors, vous écriviez à Marie-Noël?
Ben, j'écris un petit peu à Marie-Noël, oui, pas grand-chose, probablement pour lui souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, quelque chose comme ça. Et ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé des cartes postales que j'ai envoyées, donc ça doit être dans ce sens-là.
Rapidement, Nous sommes allés ensemble avec votre compagne et votre camarade. Voilà. Nous sommes allés à la maison de Marie-Noël. On a vu la chambre de Marie-Noël. Ça vous a
bouleversé? Oui, j'ai regretté un peu de ne pas y être seul dans cette chambre. J'aurais voulu rester un petit moment, réfléchir un peu, quoi. Alors, comme on était plusieurs, on était respectueux du lieu, mais enfin, les gens parlaient, etc. Ça m'a un peu empêché de vivre avec intensité l'émotion devant. Moi, j'ai vu ce lit où elle est décédée, mais j'ai vu un autre lit où un grand homme que j'admire beaucoup, qui a été aussi occulté. Parce qu'il n'y a pas que les poètes qui ont été occultés par le dadaïsme et le surréalisme de Breton et de Aragon. Il y a aussi les sculpteurs, Maillol. Il y a aussi le peintre Bonnard, qui est un très grand peintre. Et j'ai dormi dans la chambre de Bonnard.
Mais Bonnard, peut-être qu'il a eu l'erreur de partir avec un certain nombre d'artistes en Allemagne pendant l'occupation.
Non, c'est faux, ça. C'est des mensonges. Et de toute façon... ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce voyage était organisé pour libérer des prisonniers français. Je sais pas, c'est que celui qui n'a pas péché jette la première pierre.
Non, je n'accable pas. Ce sont des
interprétations mensongères. Maillol a été traité de collaborateur parce que en 1903, il fabriquait du papier, le papier Montval. En 1903, à Marly-le-Roi, à Port-Marly, avec son neveu Gaspard Maillol, il fabriquait le meilleur papier à dessiner au monde, papier Montval. Et ce papier était sponsorisé par un mécène allemand, un baron allemand riche, qui adorait la France, la culture française, car les Allemands ont toujours adoré la France. Et à l'époque, après 70... les Allemands, c'était des boches. Donc les gens de Port-Marly ont foutu le feu en 1914 à l'atelier d'où ils fabriquaient le... Alors, voilà le genre de choses, vous voyez, qui sont inadmissibles. Alors ensuite, il y a eu la guerre de 40. Maillol a reçu dans son atelier parce qu'il y avait des officiers allemands qui connaissaient l'œuvre de Maillol, qui venaient le visiter. Picasso en a fait autant.
Oui.
Mais Picasso est très intelligent. Il a acheté sa carte au Parti communiste au mois de mars 1945. C'est-à-dire que les Allemands avaient déjà passé la frontière. Et c'est parti. Je vous signale que Picasso n'a fait ni la guerre de 14, qu'a fait Apollinaire, Rousseau, Blessandra.
Ou Aragon.
Il n'a pas fait la guerre d'Espagne. Il n'a pas fait la guerre de 39-40. Hein? Et puis, quand il y avait l'occupation, il a vécu à Paris, quoi. Il n'a pas eu trop de problèmes.
Marie-Noël disait « Ce que j'ai de gai en moi, je l'écris. Ce que j'ai de triste, je le chante. »
C'est très bien. Je ne savais pas qu'elle avait dit ça.
C'était son credo.
Ben voilà.
Cela vous convient?
Ça me convient parfaitement. Moi, j'aime les œuvres dramatiques. Le mot triste ne me plaît pas trop, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Moi, quand Bach, ça ne me fait pas rigoler du tout, Jean-Sébastien Bach. Ça m'élève. Les musiques qui sautillantes, un petit peu comme ça, rococo, baroque. Est-ce que j'ose dire que les plus belles pages de Mozart, c'est les pages tragiques? C'est la fin de sa vie. Mais tout ce qui est léger, moi, ça ne me touche pas du tout. Alors, ça me touche sous la forme folklorique. Quand je vois les gens qui sautillent, qui dansent la sardane, ou qui dansent la... le Musette, j'aimais beaucoup le Musette. Mais les intellectuels méprisaient totalement le Musette.
Et ce soir, au spectacle, il y aura une bourrée limousine.
Elle est au programme. Voilà, ça j'aime bien.
En tout cas, Hugo Frey, merci de vous être associé à cet hommage national pour le 50e anniversaire.
Voilà, on a fait des dérives. En fait, je suis là pour Marie-Noël. Marie-Noël est peut-être le plus grand poète pour moi, celui qui m'intéresse le plus, le poète du XXe siècle, c'est Marie-Noël. C'est quelqu'un qui n'a fait aucune concession, qui n'a jamais été agressive, qui était tolérante. Et comme je vous le dis, c'est, pour moi, elle est humaniste. C'est l'humanisme, c'est-à-dire ni gauche ni droite. Et elle est agnostique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se permet d'insulter Dieu. Vous voyez, dans certaines œuvres, elle se met en colère contre Dieu.
Parce et que après, elle dit, la touche, oui. Voilà. Notamment la mort de ce petit père de 12 ans qu'elle trouve.
Donc, en fait, l'interview, c'était au sujet de Marie-Noël. Il faut qu'on en parle de Marie-Noël et de Marie-Noël uniquement.
C'était Hugo Frey, le chanteur que j'avais rencontré à Auxerre en novembre 2017, lui qui était venu spécialement au théâtre d'Auxerre pour participer à travers quelques chansons qu'il avait offertes tout à fait bénévolement à un public venu très nombreux pour un hommage à Marie-Noël à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de cette poétesse. Marie-Noël qui écrivait d'ailleurs « Je suis au Christ jusqu'à la racine » et un extrait d'un de ses poèmes où elle dit « Mon Dieu, source sans fond de la douceur humaine, je laisse en m'endormant couler mon cœur en vous, comme un vase tombé dans l'eau de la fontaine et que vous remplissez de vous-même sans nous. » Je vous encourage donc à feuilleter quelques recueils de Marie-Noël, et je vous recommande particulièrement les chansons et les heures et le rosaire des joies disponibles dans la collection Poésie Gallimard chez NRF. C'est Wagon Livre sur Radion, spécial 22e printemps des poètes, qui s'achève d'ailleurs dans quelques jours. Tout de suite, pause musicale avec Benabar.
Bien sûr, il y a les rimes en fleurs, les métaphores, les grands discours, les je n'aime que toi, les mon amour, les pour toujours, les soleils couchants, le vent, la plage, les océans, les références au cœur, c'est un organe très émouvant. Mieux les je t'aime, tout le monde peut le faire, c'est comme amen, c'est pas très dur. Pour dire bonne nuit chaque soir, là faut vraiment y croire. Pas besoin de prêt-à-porter, de slogans, de phrases toutes faites, tout s'efface partout, prêt à l'emploi. Qu'on se répète les mots d'amour, c'est pas ça, c'est bien plus compliqué, crois-moi. Les déclarations les plus belles ne figurent pas dans les manuels. C'est banal, mais les quelques mots que je te destine, je les préfère aimanter sur le frigo, dans la cuisine. Je veux voir nos initiales côte à côte sur l'interphone, pas gravées au canif dans l'écorce d'un chêne. Pas besoin de vieux balcons de Roméo et de Juliette, je peux me contenter d'un petit signe par la fenêtre. Faisons l'impasse sur les violons, les toits pour moi et vice versa. Tous ces mots trop doux qu'on a prononcés trop de fois, les mots d'amour, les mots d'amour, c'est pas ça, c'est bien plus compliqué, crois-moi. Les déclarations les plus belles ne figurent pas dans les manuels. Mon petit cœur, mon petit chat, mon trésor, mon petit rat, ma petite fouine, ma petite teigne, ma sardine, ma sardaigne, mon sagouin, mon trois fois rien, merci qui, merci mon chien, mon soleil, mon bouquet de roses, mon orteil, ma boîte de douce. On peut bien sûr parler d'avenir, promettre monts et merveilles, c'est bien plus fort à tout à l'heure quand on lui murmure à l'oreille. Certains construisent des châteaux, ils y mettent des perles de pluie. Moi j'ai fixé une étagère, elle est d'ailleurs tombée depuis. Ils trouvent encore des formules quand ils se séparent et habillent de ridicule la fin de leur histoire. Moi j'ai pas le cœur brisé, j'ai vérifié chez mon médecin, mais je regrette ces mots d'amour que tu me disais si bien.
Mon petit cœur, mon petit chat, mon trésor, mon petit rat, ma petite fouine, ma petite teigne, ma sardine, ma sardaigne, mon sagouin, mon trois fois rien, merci qui, merci mon chien, mon soleil, mon bouquet de rose, mon orteil, ma boîte de douce.
Mon petit cœur, mon petit chat, mon trésor, mon petit rat, ma petite fouine, ma petite. pingouins n'ont trois fois rien. Merci qui, merci mon chien. Mon soleil, mon bouquet de roses, mon orteil, ma boîte de douce.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Les mots d'amour par Benabar à l'instant dans votre wagon livre spécial 22e printemps des poètes. Je vous propose maintenant de réentendre un extrait d'une émission wagon livre diffusée en mars 2012 sur Radion. Vous allez réentendre Serge Moreau qui avait fait paraître un petit dictionnaire atypique des poètes de langue française aux éditions de l'Armançon. Serge Moreau, poète et romancier, né dans le Chablisien en 1929, il réside à La Roche-Saint-Cydroine. Il est l'auteur d'un roman intitulé « Un petit train noir au temps des Doriforts », roman dont l'action se déroule entre Montmartre et Noyers-sur-Serein et qui évoque la vie artistique et culturelle sous l'occupation en France. Serge Moreau a été récompensé par la société New Works en recevant la médaille d'or de l'Académie internationale de Lutèce pour « Chant des rues » et « Poème des champs ». Alors au cours de cette émission, Serge Moreau évoquait un certain nombre de poètes qu'il avait recensés avec enthousiasme dans son petit dictionnaire atypique des poètes de langue française. Il évoquait Marie-Noël. Et là, je vous propose d'entendre Serge Moreau évoquer l'auteur d'un très grand nombre de chansons, un auteur né dans l'Yonne, précisément à Noyers-sur-Serein. Il s'agit de Charles-Louis Potier. Serge Moreau.
Alors là, je vous vois venir, c'est pas 2000, c'est plus de 2500, paraît-il, et je tiens ça de sa petite fille qui est l'une de mes amies, c'est Charles-Louis Potier, dont une plaque commémore le souvenir sur une place à Noyers, à côté de la pharmacie. C'est facile pour les gens qui vont à Noyers. Et Charles-Louis Potier, je l'ai très très bien connu, c'était un ami de ma famille, c'était le cousin d'amis, etc. C'était un homme de Noyers qui a passé tous ses étés à Noyers et qui a passé le reste du temps, l'hiver, la saison, à Paris. Alors, il s'est mis à écrire des chansons dès 1914, dès la guerre. Il n'a pas été mobilisé parce qu'il avait des yeux très malades, des pauvres yeux, il voyait mal. Et il a fait... Il s'est mis tout de suite à faire des chansons et il a fait d'abord des chansons d'époque qui voulait que des chansons un peu patriotiques où le Kaiser, le fameux Kaiser venait dans les maisons manger des petits enfants, des trucs comme ça. C'était très à la mode pourvu qu'on tape sur la gueule des boches, ça faisait plaisir à tout le monde. Et puis après la guerre s'est arrêtée et il s'est mis à écrire des chansons comiques, surtout comiques. Je ne veux pas vous les citer, j'en ai au moins 25 dans ma tête. Et puis, comme ça arrive souvent, et ces gens-là, ils sont connus comme producteurs comiques. Et puis, d'une manière inattendue, ils vont faire un chef-d'œuvre qui n'est pas comique lui-même, mais il va plutôt faire pleurer tout le monde, puisque c'est...
Les roses blanches.
Voilà, voilà.
Alors, on peut mentionner aussi bon, l'Hôtel des Trois Canards, mais qui connaît cette chanson? Moi, je la connais.
Bon,
connaissez-vous
bravo.
L'hôtel des Trois Canards?
Bon, coin.
Exact, Serge.
Oui, ah ben je vais bien. Ça, c'était Marie Dubas qui chantait ça.
Et puis, il y a aussi, quand même, la célèbre chanson Félicie.
Si, oh, si.
Et oui.
Voilà, que Fernandel a immortalisé. Et puis, il y a d'autres chansons aussi qui ont bien marqué, bien marqué. Dont une qui est plutôt poétique. C'est On n'a pas tous les jours 20 ans. Et c'est devenu presque un proverbe. Et c'est la marque d'une grande qualité. Quand un monsieur en 4 mots, 5 mots met un vers pareil, eh ben, il mérite une statue.
Serge, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous présentiez un sous-préfet original qui s'appelle Stéphane Liéchard.
Je vois venir.
Et qui est né à Dijon en 1830.
Alors, il a fait de brillantes études. Et puis, il est rentré dans le corps, justement, de la préfecture. Et il était sous-préfet à Carpentras. Et alors, on raconte qu'un jour qu'il faisait chaud, il allait faire un discours, il avait trop chaud, son discours n'était pas fini, il a fait arrêter sa calèche, je ne sais pas comment on pouvait dire,
sa calèche.
La voiture de la sous-préfecture à cheval. Et dans le gazon, il aurait fini de corriger son discours. Et il était assez farfelu, ce monsieur Stéphane Liéchard. Et le bruit en serait venu aux oreilles de Alphonse Daudet. Et c'est de cette histoire qu'Alphonse Daudet a écrit le fameux sous-préfet Auchan. Voilà, tout est venu de là. Alors, pour parler un peu plus de monsieur Stéphane Léjard, très connu à Dijon, il a sa rue, il a son château qui est devenu un lycée. D'ailleurs, en banlieue de Dijon, il a un lycée qui porte son nom. Et il a fini une carrière. Oh, il a fait plein de choses. Il a même fait, à un moment donné, il a fait de la politique. Il a pas continué tout le temps dans la préfecture. Et puis, il s'est retrouvé en retraite dans le Midi, puisqu'il avait été déjà à Carpentras. Et il a écrit un livre. Il était heureux. Il se sentait bien dans le Midi. Il a écrit un livre sur les beautés des villes où il allait se promener. Et il a intitulé son livre « La Côte d'Azur », qui est un splendide, une sorte de poème, finalement, dédié à la beauté de cette région qu'on appelait la Riviera. Il y avait la Riviera française et la Riviera italienne. Et lui, son livre a eu tellement de succès. Je l'ai vu, son livre, j'ai des coupures ici à ce sujet-là. C'était très bien. Il vante les mérites de Cannes, de Nice, de Beaulieu, de tout le coin. Et son livre a tellement eu de succès qu'il a donné le nom. C'est lui qui a donné le nom à cette région qu'on appelle maintenant la Côte d'Azur.
Parlons, Serge, si vous le voulez bien, de Stéphane Mallarmé, né en 1842.
Un autre Stéphane.
Un autre Stéphane. Et qui, lui, a été élève.
Il est bourguignon si on veut, mais est-ce que Sens est en Bourgogne? Je sais que je vais me faire arracher les cheveux par des gens parce que on a créé la Bourgogne avec 4 départements qui s'élargissent, qui s'allongent, et le haut de Lyon n'a rien à voir avec la Bourgogne, c'est le bassin parisien. Bon, mais à Sens, il est arrivé à un monsieur qui s'appelait Stéphane Mallarmé, qui a fini ses études et qui est revenu quelques années après comme professeur d'anglais.
Voilà. Bon. Créateur du courant symboliste. Alors avec Zanin, on va pas développer.
Voir les livres spécialisés.
En revanche, Serge, le spécialiste, c'est vous ce soir, et j'aimerais bien que vous nous parliez de Clément Privé.
Oh, Clément Privé.
Alors, Clément Privé, il est né à Fontaine, de Toussy, un petit village de Puisay. Et alors, Clément Privé, c'est un poète qui est venu à vous, Serge, et en fin de compte, ce pauvre Clément Privé s'est vu confisquer un sonnet qu'on attribue, par erreur, semble-t-il, à Stéphane Mallarmé.
Alors voilà en deux mots, c'était un peu compliqué, mais Clément Privé, il avait, d'après ses lectures et tout, touché par la grâce montmartroise. Déjà, on parlait des écrivains de Montmartre, des poètes de Montmartre. Et lui, il a fait des études pour être une sorte d'agent voyer, ce qu'on appelait dans les campagnes l'agent voyer. Il a travaillé dans le centre de la France, à droite, à gauche. Il avait une vraie profession officielle, fonctionnaire, mais il était torturé par le besoin d'écrire des poèmes et des histoires. Et il a écrit d'ailleurs beaucoup de poèmes qui ont été édités dans le journal de Lyon, dans le journal de Lyon de l'époque, qui était peut-être le Bourguignon ou après, je ne sais plus. Et Clément Privé est donc arrivé un jour à Montmartre, au Chat Noir, où il a donné quelques poèmes, dont surtout un poème important qui, par un hasard qu'on arrive mal à définir, moi je sais à peu près comment ça s'est passé, mais des tas d'écrivains ne veulent pas l'admettre, il a été attribué à Stéphane Mallarmé. Je ne vois pas du tout comment Stéphane Mallarmé aurait pu écrire un poème de chansonnier. Mais peut-être, c'est la supposition que nous faisons, Stéphane Mallarmé n'est pas quand même le bonnet de nuit qu'on pourrait croire, le monsieur sérieux, le professeur, etc., qui, entre parenthèses, était un professeur pas très bien vu, à un sens. Et après, à Paris, il était ennuyeux. Les élèves l'aimaient pas trop parce qu'il était ennuyeux. Il était agréable que dans ses soirées chez lui. Alors là, il y avait un monde fou, etc. Bon, mais il a trouvé le poème de Clément Privé. Il l'a certainement copié de ses mains, puisqu'on a une feuille de papier où on voit le sonnet de Clément Privé et de l'écriture de Stéphane Mallarmé. Mais comment Stéphane Mallarmé aurait pu passer des nuits entières à Montmartre, au Chat Noir, alors que Clément Privé, avant de mourir dans la misère, parce que les chansonniers qui n'avaient pas un deuxième métier, ils crevaient de faim. Surtout, faut le dire, que le patron du Lapin Agile, du chat noir. C'était Salis. Et Salis était un pingre effroyable et reconnu par tout le monde. Et le pauvre Clément Privé est mort totalement dans la misère. Mais Salis a récupéré son sonnet et n'avait pas peur de le dire le soir en débutant au chat noir, en laissant sous-entendre que peut-être c'était peut-être lui. En ne disant pas de qui était l'auteur, on pouvait supposer que c'était peut-être Salis lui-même. Alors que Salis n'a jamais rien écrit, on ne connaît rien de Salis. Voilà comment ce fameux... Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que des gens supérieurs en tout et qui ont créé et composé la collection des poèmes de Mallarmé
à la
Pléiade, ont mis en première page le poème de Clément Privé, ce qui fait que des tas de gens vous disent « Monsieur, vous êtes un âne, regardez la Pléiade, c'est dedans ».
C'était Serge Moreau, poète romancier, dans un numéro de Wagon Livre qui a été diffusé en mars 2012. Le petit dictionnaire atypique des poètes de langue française aux éditions de l'Armançon ne peut plus être commandé en librairie puisque les éditions de l'Armançon n'existent plus. Néanmoins, on peut toujours ou le consulter en bibliothèque ou le trouver d'occasion. C'était un vraiment... petit dictionnaire absolument remarquable qui évoque un très grand nombre de poètes, des bourguignons, mais également de grandes figures nationales. C'était donc Serge Moreau qui a fait paraître en 2011 aux éditions Saxo « Rendez-vous Place du Tertre », un ouvrage qui fourmille d'anecdotes savoureuses sur la vie de la butte Montmartre sur laquelle Serge Moreau a passé plus d'un quart de siècle. C'est Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tout de suite, un nouvel intermède musical. Et on se retrouve juste après, si vous le voulez bien, pour la suite de ce numéro spécial 22e Printemps des Poètes.
Tu sens bon, mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clins. De toute façon, sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. 2 secondes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Marie-Flore, tout ou rien, à l'instant dans votre numéro de Wagon Livre spécial 22e printemps des poètes. Nous terminons d'ailleurs ce numéro avec la lecture d'un poème intitulé Épiphanie 1937, sous la plume du poète grec Georges Séphéris. Georges Séphéris, né en 1900 et disparu en 1971, il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1963. Épiphanie 1937 va nous être lue par Sylvie Lipa-Lacarrière, que j'avais enregistrée lors de la nuit de la lecture à la librairie L'Or des Étoiles à Vézelay, le 20 janvier 2018.
La mer en fleurs et les montagnes au déclin de la lune. La grande pierre près des figuiers de Barbarie et des asphodèles. La cruche qui ne voulait pas tarir à la fin du jour. Et le lit clos près des cyprès et de cheveux d'or. Les étoiles du cygne et cette étoile Aldébaran. J'ai maintenu ma vie. J'ai maintenu ma vie en voyageant parmi les arbres jaunes, selon les pentes de la pluie, sur des versants silencieux, surchargés de feuilles de hêtre. Pas un seul feu sur les sommets, le soir tombe. J'ai maintenu ma vie. Dans ta main gauche, une ligne, une rayure sur ton genou. Peut-être subsistent-elles encore sur le sable de l'été passé, peut-être subsistent-elles encore là où souffla le vent du nord, tandis qu'autour du lac gelé, j'écoute la voix étrangère. Les visages que j'aperçois ne me questionnent pas, ni la femme qui marche penchée, allaitant son enfant. Je gravis les montagnes, vallées enténébrées, la plaine enneigée, jusqu'à l'horizon, la plaine enneigée. Ils ne questionnent pas le temps prisonnier dans les chapelles silencieuses, ni les mains qui se tendent pour réclamer, ni les chemins. J'ai maintenu ma vie en chuchotant dans l'infini silence. Je ne sais plus parler ni penser. Murmure, comme le souffle du cyprès cette nuit-là, comme la voix humaine de la mer la nuit sur les galets. Comme le souvenir de ta voix disant « Bonheur !» Je ferme les yeux, cherchant le lieu secret où les eaux se croisent sous la glace, le sourire de la mer et les puits condamnés à tâtons dans mes propres veines. Ces veines qui m'échappent là où s'achèvent les nénuphars et cet homme qui marche en aveugle sur la neige du silence. J'ai maintenu ma vie avec lui, cherchant l'eau qui t'effleure, lourde goutte sur les feuilles vertes sur ton visage, dans le jardin désert, goutte dans le bassin stagnant, frappant un signe mort à l'aile immaculée, arbre vivant et ton regard arrêté. Cette route ne finit pas. Elle n'a pas de relais. Alors que tu cherches le souvenir de tes années d'enfance, de ceux qui sont partis, de ceux qui ont sombré dans le sommeil, dans les tombeaux marins, alors que tu veux voir les corps de ceux que tu aimas s'incliner sous les branches sèches des platanes, là même où s'arrêta un rayon de soleil à vif, où un chien sursauta et où ton cœur frémit. Cette route n'a pas de relais. J'ai maintenu ma vie. La neige et l'eau gelées dans les empreintes des chevaux.
Sylvie Lipa-Lacarrière qui lisait un poème de Georges Séphéris, Épiphanie 1937, une lecture que j'avais enregistrée à la librairie L'Or des Étoiles à Vézelay le 20 janvier 2018, lors de la nuit de la lecture. Ce wagon-livre touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous pour honorer ce printemps des poètes, 22e édition Manifestation Nationale, commencée le 7 mars dernier. et qui se termine le 23 mars prochain, et qui avait retenu cette année le thème du courage pour que la poésie soit, durant cette quinzaine, au cœur de nos vies. À signaler en kiosque et maison de la presse un hors-série de Télérama consacré à Boris Vian, dont on fête cette année le 100e anniversaire de la naissance. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Rendez-vous toujours à 11h, samedi prochain, 28 mars, et bien évidemment, toujours sur Radio. Un excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.